France Musique. France Musique, les grands entretiens, Christophe Dillis.
Je m'appelle Jean Tubéry. Je suis né à Toulouse un 3 avril 1964. Je suis ici afin de partager notre passion commune, la musique.
Tubéry, quand on parle de musique ancienne, on place très souvent l'Orfeo de Monteverdi comme les débuts de l'opéra. Les Vêpres de Monteverdi comme l'Orfeo sont des œuvres qu'on donne et qu'on redonne très régulièrement. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire avec ce compositeur ?
Il me semble que Monteverdi fait partie de ces grands génies, au même titre que Jean-Sébastien Bach, Henry Purcell, bien d'autres encore, qui recèlent toujours une part de mystère. J'aime bien comparer les Vêpres de la Vierge de Monteverdi à une cathédrale que l'on redécouvre sous une différente lumière en fonction de l'heure à laquelle on entre dans l'édifice, la manière dont on découvre tel ou tel vitraux selon qu'on le regarde de tel ou tel angle. Et donc ces Vêpres ont suivi l'ensemble Affinity et nous avons suivi ces Vêpres de Monteverdi pendant 30 ans. Nous avons eu la chance de les enregistrer il y a une paire d'années de cela. Non seulement avec, comme d'habitude, un double CD qui en restitue l'œuvre, mais aussi un DVD qui me semble être aussi la particularité de ce travail, un DVD qui parle de la genèse de l'œuvre, à savoir la manière dont elle a été conçue à son époque. Donc on part de Reims, dans laquelle nous avons eu la chance d'enregistrer cette œuvre auprès de la maîtrise de Reims, dirigée par Sandrine Lebec, grâce au Festival Agapé. Et puis nous poursuivons notre voyage en Italie, à Venise, à Mantoue, avec Claudio Monteverdi. Donc c'est en cela peut-être que se trouve la signature de l'ensemble La Fenice, c'est-à-dire que nous ne nous contentons pas de restituer l'œuvre avec une énième version de plus, mais nous expliquons un petit peu qu'est-ce qu'il en a été de la genèse de l'œuvre à son époque et encore de nos jours.
Donc c'est comme un documentaire, ça fonctionne comme un documentaire.
Voilà, c'est un documentaire avec bien sûr une restitution avec voilà, son livret d'une centaine de pages, mais c'est un petit peu le compendium des 30 ans de La Fenice, puisque c'est une œuvre aussi qui m'a permis de vivre de mon instrument il y a 30 ans de cela, à l'époque où nous étions si peu à pouvoir jouer cette œuvre, et donc j'ai eu la chance de la diriger quelques dizaines de fois, mais au préalable de la jouer plus d'une centaine de fois, à vrai dire, avec tant de chefs inspirés. Et donc il était normal pour les 30 ans de l'ensemble d'en donner notre version, dont ce fameux DVD qui en restitue la genèse.
Tubéry, je vais vous poser une question qui est bien rebattue, mais qui est nécessaire de poser. Est-ce qu'il faut être croyant pour donner en concert une œuvre spirituelle ?
Je ne pense pas. Par contre, si on n'est pas conscient de la portée spirituelle de cette œuvre et si on n'a pas le souci de la révéler, alors on passe à côté du message du compositeur, on passe à côté de l'œuvre quelque part. Il en reste toujours quelque chose. Il reste toujours quelque chose d'une cantate de Bach, quand bien même on n'a pas la foi luthérienne. Il reste toujours, bien sûr, beaucoup des Vêpres de Monteverdi, quand bien même on n'a pas la foi catholique. Et il ne s'agit pas de convertir qui que ce soit, ni à la foi catholique, ni à la foi protestante, mais il s'agit simplement de prendre conscience de la chance qui nous est donnée là, d'avoir accès à un message d'une spiritualité qui nous dépasse, qui dépasse aussi l'office, à vrai dire, hein, parce que ces chefs-d'œuvre dépassent leur propre fonctionnalité. Les gens qui ont entendu les Vêpres de Monteverdi donnés dans un office à Saint-Marc au début du XVIIe siècle, je pense qu'ils ont une révélation qui va au-delà du simple office qu'ils ont pu entendre ici et là, en dehors des grands jours de fête. Donc ces chefs-d'œuvre-là font partie du patrimoine intemporel de l'humanité. Ils sont là aussi pour nous révéler l'être humain dans sa dimension spirituelle. Et c'est en cela qu'il nous faut les reconsidérer peut-être de nos jours en tant que musique de concert.
Vous avez eu des expériences heureuses ou malheureuses de mise en scène avec la Fianice?
Nous avons eu une expérience que je qualifierais d'intéressante au début du XXIe siècle avec la représentation di Anima di Corpo, la représentation du corps et de l'âme de Cavalieri, à une période dans laquelle il était très à la mode de rajouter des vidéos, par exemple, dans toute mise en scène. Et donc, ce fut le cas avec un metteur en scène qui ne se souciait pas beaucoup du livret, à vrai dire, qui me posait toujours la question, que veut dire le texte ici et là? Et malheureusement, cette musique baroque est écrite sur le texte et elle est une peinture du texte. Donc à partir du moment où nous avions cette dichotomie entre une lecture qui ne se souciait pas du message littéraire et qui au contraire transformait la musique en une sorte de prétexte pour une mise en évidence d'un projet artistique visuel, il y avait une dichotomie entre le but du metteur en scène et le but du musicien qui était de restituer la partition. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui m'a un petit peu refroidi, je dirais, mais elle ne m'a pas découragé pour autant. Et par exemple, puisqu'on parle de Monteverdi, un des projets de la Fenice est bel et bien de restituer son Orfeo, mise en scène, mais avec quelqu'un qui connaisse véritablement cette œuvre et qui aime, qui soit passionné par cette musique et par ce compositeur. Et c'est vrai qu'avec Michel Faux, donc avec qui nous partageons une passion commune, outre le fait que nous sommes tous deux originaires du Sud-Ouest et que nous sommes nés la même année, en tout cas, nous avons ce projet commun de restituer un Orfeo avec une mise en scène qui soit à la fois créative, comme elle a été à l'époque de Claudio Monteverdi, et pourtant respectueuse, bien évidemment, de cette musique géniale qui est celle de l'Orfeo del Monteverdi.
Quand je vous entends parler de mise en scène et de ce concert du 21e siècle, j'ai l'impression que l'aspect visuel est très important pour vous en tant que musicien. Je vais me permettre de vous citer. Il est sûr qu'en frac et en queue-de-pie, ils n'attireront pas les jeunes spectateurs. Il y a l'importance du visuel dans le concert.
C'est vrai qu'avec notre musique ancienne, notre musique baroque, on a toujours eu tendance à sortir des sentiers battus. Et il nous faut peut-être réinventer cette visualité du concert, en effet. Faire en sorte que la musique s'inscrive dans une démarche artistique plus globale, plus complète, plus à même de répondre aux attentes de l'artiste ou tout simplement du mélomane du 21e siècle. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup avec l'ensemble La Fenice, et en particulier avec l'ensemble La Fenice à venir. Et parce que figurez-vous que cette 30e année de l'ensemble La Fenice fut l'occasion de créer ce jeune ensemble émanant de l'ensemble La Fenice. Nous l'avons intitulé l'ensemble La Fenice à venir, avec un très beau logo en miroir, puisqu'on a la chance d'avoir La Fenice à venir et qui comporte tant de voyelles et de consonnes communes. Eh bien, cet aspect visuel est fondamental parce que autant l'enregistrement est un témoignage du concert. Autant le concert se fait d'être humain à être humain, ou se faisait, on va dire, puisque de nos jours, malheureusement, on est en attente des prochains qui pourront se faire quand nous sortirons de cette triste période. Et donc cet aspect visuel, c'est-à-dire de communication d'être humain à être humain, me semble fondamental et parfois peut-être trop négligé dans le concert de nos jours. Alors, on entend beaucoup la formule « il va falloir se réinventer ». Alors, se réinventer, je ne sais pas dans quelle mesure on va pouvoir réinventer la musique, mais en tout cas, on va pouvoir réinventer le fait d'être davantage conscient que la présence humaine est fondamentale à la fois à la musique, aux musiciens et au public. Et c'est en cela que la présence humaine fait appel, bien sûr, à cet aspect visuel. Et peut-être que un des aspects positifs de cette triste pandémie au niveau de la musique et de sa restitution sera que nous prenions davantage conscience de l'échange entre êtres humains que c'est, sinon de la communion qu'elle génère lors du concert.
France Musique, les grands entretiens de Jean Tubéry.
Dans un monde où on parle toujours de nouvelles générations, de tout jeunes artistes prodiges, où vous placez-vous, Jean Tubéry? Est-ce que vous êtes la vieille garde? Est-ce que vous êtes le pionnier qui aura toujours des choses à dire? Est-ce que vous êtes un passeur de flambeaux satisfait?
Ah ben je sais peut-être un peu tout de cela. La vieille garde, je pense pas encore, non. Mais c'est sûr qu'on ne fait plus partie des jeunes ensembles, mais par contre, on fait partie, je crois, des ensembles qui sont parfois devenus une référence pour les jeunes musiciens. Et ça, c'est un grand honneur, en fait, tout simplement. À savoir que cette discographie importante, cette manière d'aborder tout ce répertoire, quelque part de la même manière que les jeunes musiciens l'abordent de nos jours, donc avec à la fois rigueur et passion, eh bien, je pense que cela a inspiré un certain nombre de jeunes ensembles qui, de nos jours, font floresse et rendent ce répertoire extrêmement vivant encore et toujours de nos jours.
Surtout qu'en plus, toutes ces sources-là sont très facilement accessibles maintenant.
Alors ça, c'est une remarque intéressante, c'est-à-dire que ces sources-là, donc les sources du répertoire ancien, sont accessibles de nos jours grâce à Internet, grâce à ces bibliothèques virtuelles qui permettent en un clic de trouver des œuvres qui, à l'époque, nécessitaient de longs voyages à travers toute l'Europe. Donc qu'est-ce qu'on en a gagné? On en a gagné la facilité d'accès. Et qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu la notion de ce qu'on appelait « Urtext » à l'époque en allemand, c'est-à-dire le texte d'origine. Donc on a toujours, dans la plupart des cas, des transcriptions de ces œuvres-là. Et on ne sait pas trop ce qu'il en est de l'original. Quand bien même, de nos jours, il y a encore effectivement des restitutions des originaux. Et puis on a perdu, une émotion qui est irremplaçable pour le musicien, c'est le fait d'avoir contact, d'avoir accès à la partition originale. Donc, que ce soit un manuscrit ou une édition du XVIIe ou du XVIIIe siècle, savoir que le musicien a approché cette partition, qu'il l'a touchée, la voir telle qu'elle, c'est quelque part une émotion qui nous fait aborder ce répertoire différemment, je dirais. Parce que on a là le témoignage que ça a été touché, lu par des êtres vivants comme nous. Et quelque part, on n'a pas la même réaction et la même émotion que quand on lit de la musique qui sort d'une imprimante après un clic sur la souris d'ordinateur.
Jean Tubéry, il y a une rencontre dont nous n'avons pas encore parlé, c'est celle avec Marie-Christine Akir qui vous a aidé à faire la jonction entre l'instrument et la voix. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en musique ancienne et particulièrement avec le répertoire italien.
Oui, c'est vrai que la voix de Maria Cristina, c'était la voix des années 90. Elle a gardé sa voix unique, d'ailleurs, encore et toujours de nos jours. Mais à l'époque, c'était une révélation. Elle venait donc travailler avec Gabriel Garrido. C'est cette voix qui avait la chaleur de l'Amérique du Sud et puis la consistance des voix d'Europe du Nord, puisque c'est une personne qui a ces deux cultures. Et c'était quelque part le miroir idéal pour le cornet, une sorte d'idéal inatteignable comme ça que l'on se devait d'imiter. Et c'est en cela qu'elle nous a en effet tellement aidé, tellement inspiré lors de la collection L'Héritage de Monteverdi que nous avons effectuée dans ces années 90 pour le label Ricerca.
Vous diriez que la voix a été bien traitée lors de la redécouverte de la musique ancienne?
Elle a souvent été en retard, sans doute par rapport aux instruments. Peut-être aussi parce que l'idéal en tant que chanteur au niveau de la carrière musicale, on va dire, ça restait le monde de l'opéra. Le monde de l'opéra qui est resté assez hermétique, à vrai dire, aux recherches, aux redécouvertes par rapport à cette pratique historique. Justement parce que la mise en scène, peut-être, avait pris le pas sur la restitution sonore. Mais il faut dire que de nos jours, en revanche, il y a des chanteurs extrêmement soucieux de combler ce retard accumulé, je dirais. On a des chanteurs qui sont remarquables dans leur travail, des ensembles que j'ai eu la chance de faire travailler dans le passé, des gens comme Lionel Meunier avec Vox Luminis, ou encore le chœur de chambre de Namur, à présent dirigé par Leonardo Alarcón. Je pense que tous ces jeunes ensembles sont à même de restituer cette musique avec un souci accru d'une adéquation avec la recherche instrumentale qui a été effectuée par les pionniers des années passées.
Jean Duberry, depuis le début de ces entretiens, on parle beaucoup de concerts et du plaisir des sens. Je crois qu'il y a chez Monteverdi quelque chose qui vous plaît. C'est un mélange de mise en scène, de texte, mais surtout quelque chose de profondément poétique.
Oui, alors la poésie, ça c'était le jardin secret de ma mère, ça, parce que mon père n'était pas très sensible à la poésie. C'est peut-être cet aspect de fils d'instituteur, beaucoup plus rationnel, était extrêmement sensible à la musique, comme beaucoup de scientifiques d'ailleurs, comme beaucoup de matheux. Mais la poésie, ça lui disait pas grand-chose. Peut-être qu'il avait la pudeur, je dirais, de pas vouloir être sensible à cette poésie qui était très chère à ma mère. Puisqu'on parle de Monteverdi, je trouve très touchant le fait qu'il parle avec tant d'égard et d'admiration de ces poètes qui lui fournissent le texte de ses livrets. Donc ils lui fournissent la matière première et il en parle avec une admiration très sincère, très franche. Donc une admiration d'ailleurs que l'on retrouve dans les pages de garde de ces éditions. Quand on regarde par exemple l'édition originale de l'Orfeo, on va parler du librettiste, donc Alessandro Striggio, tout autant que du compositeur. Alors cette poésie, elle est fondamentale, elle est à la base même de toute musique vocale à cette époque-là. Monteverdi, dans certaines de ses lettres, nous explique qu'il va refuser de mettre tel texte en musique parce qu'il ne l'inspire pas et qu'il ne lui inspire ni la giusta preghiera, la juste prière de Orfeo, ni le giusto pianto, ni la lamentation justifiée d'une Ariane quand il doit faire parler les vents. Alors on lui demande de faire parler les vents, il lui dit « Je ne sais pas comment parlent les vents, je sais comment parle Ariane et je sais comment parle Orfeo. » Donc cette poésie est fondamentale pour lui et il la touche profondément. Et Je dois avouer que j'ai de plus en plus d'affinité avec cet amour pour la poésie. Il vient de ma mère qui nous a toujours lu ses poèmes, qu'ils soient de Peggy, qu'ils soient de François Villon, de qui que ce soit. Et je les retrouve avec Monteverdi. Je retrouve ce plaisir du texte, de la beauté musicale de la poésie et puis de la beauté des affects qu'elle inspire.
Écoutant Jean Tuberi, je repense à une autre citation sur laquelle je suis tombé en préparant ces entretiens. Jean Tuberi n'est pas toujours facile à suivre, l'homme a du caractère, mais sa rigueur est indéniable. Ça, c'était dans l'Yonne républicaine le 16 mars 2013. Il n'est pas toujours facile à suivre, il a du caractère. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, j'espère. J'espère avoir du caractère. Je veux dire, un musicien sans caractère, c'est peut-être un musicien un peu tristouné. Après, on sait bien que l'intransigeance et l'exigence, ça va rimer ensemble, c'est parfois difficile à concilier. C'est-à-dire que l'exigence, il faut qu'elle soit au rendez-vous. L'intransigeance, parfois également, mais sans être au détriment de la convivialité entre musiciens qui, de nos jours, m'est essentielle. Et c'est peut-être la manière dont j'ai évolué au cours de ces 30 dernières années. C'est-à-dire que le jeune musicien d'il y a 30 ans est peut-être avec une intransigeance implacable à laquelle j'ai renoncé, conscient que la convivialité et le plaisir de faire de la musique ensemble étaient indispensables pour une restitution plus convaincante et plus humaine aussi de cette musique ancienne. Thank you.
C'était le dernier épisode de cette série de grands entretiens avec le cornettiste et chef d'orchestre Jean Tuberry. Cette série a été réalisée par Christine Amado avec Julie Garou à la technique et Romain Lenoir au mixage. L'attaché d'émission était Flora Sternadel. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série de grands entretiens sur francemusique.fr et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle série d'entretiens avec un artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.